Meu nome é Francisco Correia Lima e me assino como Francorli das iniciais do nome, Francisco Correia Lima.
Je m'appelle Francisco Correia Lima, dit Francorli, car ce sont les premières syllabes de mon prénom et mes deux noms.
Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade na gráfica editora de cordel de José Bernardo da Silva.
J'ai commencé à travailler à 10 ans à la typographie Lira Nordestina.
Et eu comecei aos 10 anos na tipografia São Francisco e aos 20 anos de idade eu trabalhei como eletrônica e abandonei a eletrônica e voltei a fazer estilogravura a pedido de um pesquisador em Fortaleza, Gilmar de Carvalho. Eu tinha 20 anos.
Donc en fait, il a commencé, comme il disait, à typographie San Francisco, qui est ensuite devenu à Lira Nordestina, à 10 ans. Ensuite, il est devenu électricien.
Voltei a fazer estilogravura, voltei aos 20 anos a pedido do professor Gilmar.
Donc il est électricien à 16 ans et en fait, jusqu'à ses 20 ans, parce qu'en fait, il y a un chercheur qui s'appelle Gilmar Carvalho, qui l'a incité à faire de la gravure sur bois. Donc à 20 ans, il est revenu à Juazeiro do Norte pour faire de la gravure.
O meu primeiro trabalho de estilogravura, depois que eu voltei aos 20 anos, foi uma via sacra.
A primeira gravura que ele fez, en fait, é La Voix Sacrée, que é très connue.
Porque quando eu comecei na gráfica, eu só fazia ilustrações para cordel e rótulo de bebida.
Ele começou dans la gravure sur bois, ele fez soit pour des illustrations de literatura de cordel, soit pour des étiquettes de boisson.
Aí depois disso, eu voltei a fazer estilogravura aos 20 anos e não parei mais. Fiz uma exposição na Lituânia, na Fundação Cultural Thomas Mann.
Avant de revenir à la gravure sur bois, en fait, il faisait des illustrations. Il ne faisait pas de la gravure sur bois pour illustrer les cordels et les étiquettes de boissons. Et donc, à 20 ans, il est revenu à la gravure sur bois.
Aí eu depois fui fazer uma exposição, falou já na Lituânia, a pedido da Casa Thomas Mann. Fondation culturelle Thomas Mann.
Il a ensuite fait des illustrations pour la maison Thomas Mann, qui est un écrivain lituanien.
Et participei de vários salons de arte, de expositions no Brasil e no exterior.
Et il a participé de nombreuses fois à des expositions et des marchés, ce qu'ils appellent des salons d'exposition dans sa carrière.
Comment vous avez appris la technique de la gravure sur bois? Vous l'avez appris par vos parents ou là où vous travaillez?
Minha aprendizagem é só autodidata, né? Aprendi sozinho porque também via outros gravadores antigos fazendo, mas assim, eles nunca me ensinaram, eu apenas fiquei observando e daí eu peguei um pedacinho de madeira e uma faca e fui fazer.
Sa formation est complètement autodidacte. En soit, il a vu des maîtres faire, mais il a vraiment appris tout seul. Il a pris un couteau, un morceau de bois, et il a appris en faisant.
Combien de temps ça vous a pris pour maîtriser la gravure sur bois?
Foi rápido, assim, foi aprimorando. Eu comecei até por conta das ferramentas que a gente não tinha, a gente nem fazia as ferramentas.
Donc ça s'est fait progressivement, il a amélioré sa technique progressivement, mais aussi ça dépendait de ses outils. En fait, plus il acquérait des bons outils, plus sa technique se perfectionnait également.
Aí, com o aparecimento de algumas ferramentas como estilete, algumas goivas, facilitou mais a gente enriquecer mais o trabalho com detalhes.
Et donc en fait, quand il a commencé à avoir des cutters ou des gouves, il a commencé à affiner son travail, à faire plus de détails sur ses gravures.
Comment ça se passe du coup, la technique de la gravure sur bois? Vous dessinez avant et après vous calquez le dessin sur le morceau de bois et après vous le taillez?
Je dessine no papel, aí depois é que hoje faço isso, scanner por conta do recurso do scanner, mas antes eu desenhava direto na madeira.
Donc avant, il dessinait directement sur le bois. Maintenant, il scanne le dessin avant de le mettre sur le bois.
Eu escaneio a imagem por conta de algumas imagens ter que ser invertida no desenho, né?
Parce que le scanner lui permet en fait d'inverser, donc d'imaginer comme en fait la gravure sur bois c'est inversé et ça lui cette technique lui permet d'imaginer, de voir en fait le résultat.
Por exemplo, uma pessoa tocando violão tem que desenhar ela para cá, oui. Porque quando imprime ela volta para aqui, fica direito.
Par exemple, quand il dessine un guitariste, il faut qu'il voit dans quel sens va la guitare. Si elle va à gauche, ça veut dire qu'elle sera à droite sur le dessin, et vice-versa.
Aí depois do desenho passado para a madeira é preparada, é lixada com várias lixas.
Ensuite, le morceau de bois est poncé plusieurs fois.
Aí, passado o desenho, eu começo a cortar, usando o estilete e as goivas, deixando a parte branca, tu sabe, baixa e alta preta.
Et une fois que le bois est poncé, donc là, il applique le dessin sur le bois et ensuite, il commence à faire les entailles. Et donc, les parties en relief seront les parties en noir et les parties plus basses seront les parties blanches.
Depuis quand le cordel est associé à l'illustration, à la gravure sur bois ?
Eu acho que em 1950, quando aconteceu aquele problema dos clichês demorarem a vir de Recife para Juazeiro, que José Bernardo começou a encomendar a Valderedo, a Mestre Nosa, capas de cordel.
Ça a commencé autour des années 50, quand ils ont commencé à vouloir laisser les plaques de zinc pour des plaques de bois, et donc par le José Bernardo da Silva, qui était le propriétaire de la typographie San Francisco, et le maître Valderedo. Et tous les deux décédés aujourd'hui.
Quelle importance ça a dans votre culture, le cordel ?
Elle a été importante et aujourd'hui, elle est revenue à être très importante. Elle a été importante antigamente pour être un moyen de communication du peuple de l'intérieur. C'est via le journal.
Si, la littérature de cordel est très importante dans sa culture parce que la littérature de cordel relayait tous les faits d'actualité et donc était le journal local.
Mas e por outro lado, também da importância que hoje a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio histórico.
E ela é redevenue importante, car aujourd'hui ela é reconnue como patrimônio cultural material nacional.
Quel thème vous inspire le plus? De quoi vous inspirez pour faire vos dessins, vos gravures?
É o cotidiano do meu sertão, do meu povo, a minha vivência lá em Juazeiro, a parte religiosidade e os santos.
Toute la partie de son quotidien, de ce qu'il appelle son peuple, de Juazeiro do Norte, de la religiosité, des saints et du sertão, qui est la caractéristique géographique du paysage et du climat du Juazeiro do Norte, qui est vraiment très particulière.
Et quand vous illustrez les cordels, est-ce que vous inspirez des textes ou c'est les textes qui sont inspirés de vos dessins ?
É o texto que inspire, porque o poeta vai encomendar, escreve a história que ele escreveu lá no cordel e manda o texto para a gente ler e ter a inspiração, a imagem que chama bastante a atenção do que ele escreveu, a história que ele escreveu.
Non, dans la littérature de cordel, c'est le texte qui est inspirateur. C'est le poète qui écrit le texte et ensuite il fait une commande auprès du graveur pour illustrer le texte.
Les cordels, vous les illustrez ? Est-ce que vous faites aussi les poèmes des cordels ?
Non, o meu forte mesmo é só a ilustração. A composição eu faço brincando. Aqui lá eu escrevo cordel, acho que tenho dois ou três títulos só publicados.
Non, son point fort, c'est vraiment les illustrations. Il a déjà écrit des cordels, deux ou trois, mais plus pour s'amuser.
Les cordels, du coup, c'est imprimé à plusieurs exemplaires. Ça s'abîme pas la matrice en bois ?
Tem, assim, para a capa de cordel, é feito a tirage até 4 000, 5 000 cópias.
Donc, s'il y a un impact, par exemple, pour une matrice faite pour l'illustration de littérature de cordel, on va jusqu'à 4 000 à 5 000 tirages.
Mas para a obra, como obra de arte, a gente tem aquele controle de tirar apenas até 100 cópias as matrizes grandes.
Après, quand c'est des gravures artistiques, comme en fait, il y a vraiment ce côté où il faut limiter les copies, qui généralement une limite à 100, il n'y a pas d'impact en fait.
Até para não banalizar a obra, não ficar, vamos dizer, só 100 pessoas vão ter cópias daquela obra.
Il donne de l'importance à limiter à 100 pour qu'il n'y ait pas une banalisation de leur ouvrage et garder de la valeur artistique. Explica por que você faz isso.
Espalhando a tinta para que ela fique toda uniforme, sem nenhum excesso de tinta, ficar toda uniforme.
Là, en fait, il fait exprès de mettre sur la plaque pour bien étaler la peinture pour qu'il n'y ait pas d'excès.
A diferença que faz, tem uma parte já foi cortada, que eu vou passar só para vocês verem como fica a diferença.
Ah, oui, parce que là, quand il y a déjà du noir,
acho que aqui na roupa já está pronta também a roupa dele. Mas sem deixar mexer no papel, não pode afastar mais. Dá uma olhadazinha, saber se a impressão está boa.
Donc là, il regarde d'abord.
Volta novamente. Impressão da xilogravura. Depois de impressa.
Donc en fait, là, il vient de faire l'impression. Et après l'impression.
Colocar o nome da técnica, que é a xilogravura, a arte de gravar na madeira.
Il indique la technique qu'il a utilisée. Parce qu'en fait, il expliquait que hier, comme il y en a ensuite qui font des sérigraphies pour certifier que c'est bien une xylogravure et pas une sérigraphie.
Coloca o título.
Ensuite, il y a le titre.
Aí fecha, coloca a assinatura do artista.
Là, il fait la signature de l'artiste.
E a série, digamos, se for tirar 100 cópias, eu tiro, coloco 001/100. E aqui de acordo, se for 10, eu coloco 001/10, que é até 10 cópias só que eu vou tirar.
Coup, si c'est 10, il va mettre 10 et ainsi de suite.
Et c'est pourquoi les chiffres ?
Pour indiquer, là, ça va être le premier tirage sur les 100 qu'il va faire. Pour donner de la 10, c'est très important qu'on fasse ça, sinon on perd notre art perd de la valeur.
Pode encontrar alguma xilogravura por aí só com o nome também PA. Alguma só com o nome PA, que é a prova do artista, né? Primeira que ele tira.
Des fois, il peut avoir juste la notation PA qui veut dire la preuve de l'artiste.
E para algumas galerias de arte, eles exigem que o artista destrua a matriz depois da série tirada.
Quando eles têm commandes de galerias d'art, souvent, ça peut arriver que la galerie demande, pour être sûr qu'il ne va pas avoir d'autres tirages, qu'ils envoient la matrice détruite. Donc, en fait, ils ré. Et ils l'envoient à la galerie pour certifier. Voilà.
Grâce à Solène, on a aussi un travail en lien avec l'UBO, donc qui va se poursuivre, comme je vous le disais, aussi en février.
Ça sera un séminaire.
Et donc, il y aura une intervention de Philippe Lestum donc sur la gravure sur bois en Bretagne, puisque c'est vraiment le spécialiste. Et en fait, nous, notre idée, ça a été, en parallèle de l'exposition Bois Brésil, de faire un accrochage de nos propres collections, justement, donc au premier étage, sur la gravure sur bois en Bretagne. Donc, il viendra commenter quelques œuvres qui sont présentées à l'étage. Voilà. Alors après, si on déroule un peu le calendrier, dans les autres moments forts, on va avoir un concert du trio Bacana accompagné d'un musicien brésilien. Donc là, ce sera un concert de musique brésilienne, donc c'est en mars, le dimanche 31 mars. Et puis ensuite, on va avoir la Nuit des musées, donc qui sera placée sous le soleil du Brésil avec Vivre le Monde. Donc on a fait un partenariat avec Vivre le Monde qui va emmener ses fanfares et puis les danseuses également. Et on aura aussi des capoeuristes, voilà. Et puis on aura d'autres rendez-vous qui sont en cours là de programmation. Et puis sinon, sur les rendez-vous habituels, on aura bien sûr, comme on fait pour chaque exposition, des ateliers pour les enfants, des visites commentées d'exposition, visites en famille. Et puis on va avoir aussi un programme en fait pédagogique pour les classes, parce qu'on d'ailleurs ça marche très bien, parce qu'on est pris d'assaut au niveau des réservations, puisqu'on a créé donc cet espace dans lequel nous sommes là, qui est nouveau, hein, puisqu'on n'a jamais exploité cet espace d'un point de vue pédagogique, donc un quartier jeune public pour l'expo, avec donc des ateliers en libre accès. Donc c'est-à-dire que si les familles ou les classes viennent, elles peuvent l'utiliser en libre accès. Donc 3 ateliers, tampons, coloriage et mémorie, qui sont tous basés sur les œuvres des artistes. Et puis on a également créé donc les 2 boîtes qui sont là-bas, que je pourrais vous montrer si vous voulez, qui sont des boîtes d'initiation à la gravure avec en fait des matrices qu'on peut assembler les unes avec les autres pour imprimer sa propre gravure. Donc quand les classes viennent ici en visite en atelier, elles peuvent utiliser l'atelier de gravure.